parti.
Quatre en effet que le sont. Qui serait capable de l'expliquer facilement et brièvement? Qui peut le concevoir, même en pensée, assez nettement pour exprimer par des mots l'idée qu'il s'en fait? Est-il cependant notion plus familière et plus connue dont nous eussions en parlant? Quand nous en parlons, nous comprenons sans doute ce que nous disons. Nous comprenons aussi si nous entendons un autre en parler.
Merci.
Qu'est-ce que donc le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Pourtant, je déclare hardiment, je sais que si rien ne se passait, il n'y aurait pas de temps passé, que si rien n'arrivait, il n'y aurait pas de temps à venir, que si rien n'était, il n'y aurait pas de temps présent.
Comment donc ces deux temps, le passé et l'avenir, sont-ils puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore? Quant au présent, s'il était toujours présent, s'il n'allait pas rejoindre le passé, il ne serait pas du temps, il serait l'éternité. Donc, si le présent, pour être du temps, doit rejoindre le passé, comment pouvez-vous nous déclarer qu'il est aussi, lui qui n'est peut-être qu'un cessant d'être, si bien que ce qui nous autorise à affirmer que le temps est?
Et là, on a la fin de la phrase qui est seulement au tableau parce qu'ils ont coupé avant. Vous la voyez, la dernière phrase ou... Que le temps est...
Ah oui, c'est qui est le temps à n'être plus.
Merci. Est-ce que tous, vous savez ce que ça veut dire trouver la thèse d'un texte? Quand on dit la thèse, ça veut dire quoi? Oui.
Trouver l'affirmation d'auteur.
Oui, donc une affirmation. Voilà, on va essayer de faire les synonymes de ce qu'est une thèse. Et là, je vous conseille de mettre ça sous forme de méthodologie du commentaire de texte dans votre cours. Ça, ça vous donne un mode d'emploi. Donc la thèse d'abord, on peut comprendre comme ce qui est affirmé par l'auteur, ce qui est soutenu par l'auteur, ce qui est défendu par l'auteur. Donc c'est une affirmation. Ça va se formuler sous la forme d'une phrase affirmative. D'accord? Et j'insiste bien là-dessus, une thèse c'est toujours une phrase, ça va pas être juste un mot. Vous n'allez pas dire la thèse de ce texte, c'est le temps. C'est pas une thèse, c'est un thème. Ouais, c'est la différence entre la thèse et le thème. On va réécrire après. Donc, une thèse est une affirmation. Est-ce qu'on a d'autres synonymes, d'autres idées qui permettent de comprendre ce que c'est qu'une thèse? Oui.
Le fait de faire dégager du texte le thème, l'idée principale.
Donc, c'est l'idée principale. Toujours sous forme de phrase, d'affirmation. Et alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire en grec, le mot grec qui est à l'origine de thèse?
Thésa.
Hein? Thésa, ça veut dire quoi du coup? Je ne sais pas si c'est thésa ou pas, je ne suis pas grande helléniste, mais ça met le sens du terme. Ça veut dire ce qui est porté, c'est ce qu'on porte en fait, ce qu'on est capable de tenir, de soutenir. D'accord? C'est pour avoir une image un peu métaphore dans la tête qui permet un peu de comprendre ce que c'est une thèse. Au sens universitaire, une thèse, c'est encore. Donc je le sais parce que j'ai soutenu la mienne samedi. Et je l'ai soutenue. C'est une soutenance. Pour la soutenir. Oui.
Une question. Est-ce que la thèse, ça peut être une question?
Non. La question, ça va être la problématique. La thèse, ce sera toujours une forme, une phrase affirmative. Ok? Et donc, à bien différencier de la thème, du thème, qui est un mot-clé. La notion la plus importante. La notion qui est au cœur de la réflexion. La notion principale. D'accord, donc vous avez un mot pour le thème, une phrase pour la thèse. Là, le texte, même si on n'a pas forcément tout compris à première lecture, le thème c'est
le
temps. Et la thèse c'est
que le temps il est que propre à la conscience de l'homme.
Oui, que le temps est surtout dans notre perception et qu'il est difficile à expliquer. Ça veut dire, il ne s'est pas cassé la tête, difficile à expliquer. Si personne ne me le demande, je le sais, c'est le temps, mais si on me le demande, je vais l'expliquer, je ne le sais plus. Donc il y a une perception du temps, un vécu du temps, qui fait que ça a l'air évident, mais dès qu'on essaye de l'expliquer, on n'y arrive pas. C'est exactement le temps. Et après, il va détailler exactement pourquoi il dit qu'il n'arrive pas à expliquer ce qu'est le temps. D'accord ? Donc ici, le thème du texte, c'est le temps. La thèse, c'est que le temps n'existe que dans notre perception, d'une part, et qu'il est difficile à expliquer, d'autre part. Je n'ai pas dit qu'il était impossible à expliquer, pour l'instant. Mais en tout cas, difficile à expliquer. Ok ? Donc ça, c'est ce qu'on devrait faire aussi sur le texte de Bertrand. Et c'est ce que vous commencez par faire quand vous faites un commentaire de texte philosophique. Ce sont des informations que vous allez pouvoir réinjecter dans quelle partie de votre commentaire ? Oui, l'introduction. Ok ? Je vais vous redonner, c'est ce qu'on a fait aussi, on a fait hier, vous avez le cas. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on a fait hier, quand on a fait. Je vais vous redonner les différentes étapes d'une intro de commentaire de texte philosophique. D'accord ? Et alors, pour aller au bout de ces éléments à dégager pour une intro, il y a ces parties du texte.
Mais madame,
oui.
Est-ce que c'est la même chose ? Parce que hier, c'est commentaire de texte philosophique et ce qu'on a fait hier, c'était interprétation de philosophique.
Oui,
c'est la même chose. C'est pas la même chose.
C'est pas le même mot, mais en vrai, c'est la même méthode. C'est-à-dire qu'ils nous ont pondu des termes spéciaux pour les spécialités, mais qui correspondent au même exercice, en fait. Donc, pas compliqué davantage. C'est juste que c'est plus court. Le commentaire de philo, vous avez 4 heures, et l'interprétation en humanité, vous avez 2 heures. Donc vous êtes obligé d'aller à la conclusion. L'intro, c'est pareil. Okay. Ce que vous devez mettre aussi, donc, ce sont les parties du texte. Alors ça, vous l'avez fait aussi en français, normalement, sur les textes. Quand vous avez les commentaires linéaires, vous trouvez les différentes parties du texte. Okay. Ça, ça peut vous aider à structurer votre commentaire de texte, de philo. Alors, il y a des indices de mise en page. Pour les parties, en général, c'est quoi ?
Des paragraphes.
Des paragraphes. Là, on a combien de paragraphes ?
3. Oh.
C'est assez satisfaisant, parce qu'on aime bien le 3 en France et en Occident en général. C'est-à-dire, du coup, Europe et États-Unis. Le 3 parties, ça nous, on aime bien. Je l'avais expliqué en humanité, c'est lié à Hegel, je ne vous ferai pas l'explication aujourd'hui, mais voilà, c'est une vieille tradition qui remonte même au Moyen-Âge, on fait toujours des trucs en 3 parties, tout ça. Donc, 3, c'est bien. Et puis ça vous permet d'avoir quelque chose de faisable en 4 heures, parce que faire 3 parties, ça va, c'est faisable. Si vous en aviez 5, là, ça serait un peu plus compliqué. Donc on peut partir sur l'idée qu'il y a 3 parties, en l'occurrence. Maintenant, il va falloir savoir quelle est la différence entre ces 3 paragraphes qui font que ce sont 3 parties. Parce que si ça se trouve, on a 2 paragraphes, mais en fait, ils disent exactement le même truc. Donc on va avoir du mal à faire 2 parties avec les paragraphes. Donc à voir. Oui.
Là, le paragraphe 1 et le paragraphe 2, ils se rejoignent un peu.
Oui. Alors on va déjà regarder. Trouver les parties du texte et là on va essayer de mettre des titres du coup. Ok ? Donc ça je vais vous laisser 5 minutes pour regarder, vous pouvez regarder à deux, hein. Quels sont les titres que vous donneriez pour chacun de ces paragraphes, histoire de voir si on a vraiment 3 parties. Ok ? Et après j'interroge. Donc là il est 5 minutes, c'est peut-être long, mais il est 39, je vous donne jusqu'à 44, si je vois que vous avez déjà fini tout avant, je vous interroge avant. Allez-y, c'est parti. Action. Pour le premier paragraphe, qui a un titre brosé ? Oui, je vous écoute.
Moi, j'ai mis la perception du temps.
Est-ce que c'est une phrase ? Est-ce que vous pouvez essayer de faire une phrase à partir de la perception du temps ? Il ne doit pas manquer grand-chose. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit sur la perception du temps ? Ou qu'est-ce qu'il nous dit du temps à propos de la perception ? Je ne sais pas si comment prendre la phrase. Vous allez le trouver. Vous appelez un ami ou...
Non, c'est...
D'accord. Ok. Parce qu'il y en a deux hyper motivés qui sont en étirement maximum et ça me fait de la peine pour elle avec leurs bras. Donc vous, la prochaine fois, ça marche ? Oui ?
Moi, j'ai mis que... Enfin, en fait, j'ai fait rejoindre le paragraphe 1 et 2, j'ai mis le paradoxe du temps et l'intuition incapable de conceptualiser.
Et c'est toujours pas une phrase ? Ah, je suis embêtante, hein, mais... Alors, redites-moi pour voir si on peut transformer en phrase.
Bah, j'ai dit le paradoxe du temps de point une intuition incapable de conceptualiser.
Alors, une intuition impossible ou difficile à conceptualiser. Incapable, c'est le sujet qui est incapable. Ce n'est pas la notion qui va être incapable. Donc, le paradoxe du temps
C'est quoi ce paradoxe?
Bah, c'est le fait qu'il a, enfin, il le connaît, il sait ce que c'est, mais seulement il n'arrive pas à en donner une définition.
Oui. Alors ça, c'est dans les deux passages de la manière? Ou c'est dans l'un plus que dans l'autre?
Là, plus dans le premier.
Donc on peut dégager cette idée-là pour le premier paragraphe qui en fait une première partie, ok? Donc on peut dire, Augustin expérimente un paradoxe, il sent le temps mais ne peut l'expliquer. Ok? Ça, on peut le noter, je crois que je vais vous le noter, mais... Enfin, vous pouvez peut-être l'écrire directement sans que j'ai besoin de le renoter au tableau. Oui?
Est-ce que ça aurait pu marcher, la conception du paradoxe?
C'est toujours pas une phrase. Ça aurait pu marcher si vous en faites une phrase. Vous voyez la différence entre une phrase et un titre? Enfin, un titre comme ça,
nominal. Dans une phrase, il y a un verbe un peu plus loin, enfin, un sujet, un verbe.
Souvent un verbe conjugué, ouais. Ok? Après, parfois des compléments, parfois des objets. Souvent des sujets, s'il y a un verbe conjugué, il y a souvent un sujet. Si on dit le temps fait réfléchir, on n'a pas forcément de. C'est bon, vous avez écrit le titre pour le grand angle? Non, oui, non. Alors, je le redis. Donc, grand angle donc, pour cette première grande partie. Augustin éprouve, je crois que c'était éprouve, ou fait l'épreuve, expérimente un paradoxe. Donc, il expérimente un paradoxe. Il perçoit le temps, mais n'arrive pas à l'expliquer. Alors, sur le grand 1, ils insistent plus sur le fait qu'ils perçoivent le temps. Et sur le grand 2, ils insistent plus sur le fait qu'ils n'arrivent pas à l'expliquer. D'accord? Donc, le grand 2, si vous avez écrit votre phrase avec un grand 1, vous pouvez rajouter grand 2 juste avant, ils n'arrivent pas à l'expliquer. Ok? C'est clair ou... Donc, grand 1, il perçoit le temps. Grand 2, il n'arrive pas à l'expliquer. Ok? Désolée, je vous ai fait faire un petit compliqué. Oui.
Ça, c'est pour les sous-parties.
Non, ça, c'est les deux grandes parties. Il perçoit le temps grand 1, il n'arrive pas à expliquer grand 2. Il expérimente un paradoxe, on le garde dans le grand 1. Ok? Ça va? Maintenant, on va aller au grand 3. Est-ce que quelqu'un veut proposer quelque chose sur le grand 3? J'essaie d'interroger un peu d'autres pour leur mettre des petites notes. Des notes de Noël. Alors, comment donc ces deux temps, le passé et l'avenir, sont-ils, puisque le passé n'est plus, que l'avenir n'est pas encore? Tout ça. Est-ce que vous avez une proposition de titre sous forme de phrase pour le 3, le troisième paragraphe? Oui.
Il définit le temps comme passé, présent, futur.
Oui. Et est-ce qu'il y en a un qui est plus compréhensible que les autres? Ou est-ce que c'est aussi incompréhensible, passé, présent et futur?
Le présent qui est entre.
Alors levez la main parce que sinon je ne sais pas qui parle. Oui.
Bah, le présent qui est entre le qui dépend du passé mais qui est avant le futur.
Oui.
Enfin, en fait le présent dépend des.
Oui. Donc il est plus facile à comprendre que les autres ou pas?
Maintenant je voulais plus compliqué à comprendre.
Alors que intuitivement on a tendance à penser que c'est plus facile de parler du présent. Alors qu'en fait c'est aussi compliqué, voire plus compliqué de l'expliquer. Ok. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire comme phrase simple pour dire ça? Oui.
Augustin différencie la différence entre le temps.
C'est le cœur antique qui vous parle. Donc, il établit la différence.
Il établit la différence entre le passé et l'avenir et le temps et l'éternité.
Donc, il établit la différence entre le passé et l'avenir. Là, même au présent, on peut mettre le passé, l'avenir et le présent, le passé, le présent et l'avenir. Et le temps et l'éternité. Comment il parle de l'éternité là? En fait, l'éternité lui sert plus pour démontrer la différence de passé, présent et avenir. Il y a d'autres textes où il parle plus de l'opposition entre temps et éternité. Donc pour l'instant, on va plus se focaliser sur présent, passé, enfin passé, présent, avenir. Oui.
Mais au lieu de dire passé, présent, avenir, on ne pourrait pas dire il établit la différence avec la flèche du temps.
Alors on pourrait le dire, mais là, il. il ne parle pas du fait qu'on passe du passé au présent à l'avenir. Là, il ne parle du... Faut croire un petit peu là. J'ai l'impression qu'on va se compliquer en fait. On a l'impression qu'on va rendre la chose plus simple si on dit la flèche du temps. Mais en vrai, lui, c'est un terme qu'il n'utilisait pas. Donc c'est anachronique. Et en plus, on va rajouter une idée qui n'est pas forcément totalement dans le texte. Alors peut-être que ça, vous pouvez garder cette idée. Vous voyez, quand vous avez une idée et que vous ne savez pas trop si elle rentre dans le cadre, vous la mettez en marge ou au brouillon. Et ça peut vous servir pour une ouverture en conclusion, par exemple. Soit la conclusion générale, soit les petites conclusions de partie. Ok ? Donc là, on peut dire que ce soit le passé, le présent ou l'avenir, toutes les dimensions du temps sont aussi difficiles à comprendre ou à expliquer les unes que les autres. Voir une petite mention spéciale pour présent même. Donc ça, ça peut être le titre de la deuxième partie qui est un peu long, mais toutes les dimensions du temps sont difficiles à expliquer. Passé, présent, avenir. Vous te redis ?
Oui.
Donc, grand 3, toutes les dimensions du temps sont difficiles à expliquer. Le point, passé, présent, avenir. Donc on va trouver les sous-parties, nos grandes parties, elles sont comme ça. Tac, on trouve les titres. Ça fait des gros blocs quand même. Hein. Ok ? Donc on va essayer de segmenter un petit peu. En se disant, bon, il doit y avoir des trucs qui vont ensemble. Il y a des phrases qui vont ensemble, puis tout d'un coup, il y a une petite rupture à l'intérieur de chaque partie. Pour que ça vous rende les choses plus concrètes, c'est comme si on se disait, on va se distribuer les tâches. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire après. Hein. Il y en a certains qui vont commenter les deux premières phrases, d'autres les trois après, puis d'autres la dernière, et tout ça. Mais il faut que ce soit cohérent. On ne tombe pas sur des phrases qui se suivent, mais qui en fait passent d'une idée à une autre. Ok ? Donc là, sur la première partie, quelles sont les phrases que vous mettriez ensemble ? Oui ? Les trois premières, on comprend.
D'ailleurs, je vais mettre les trois premières phrases interrogatives en général.
Ah, c'est dehors. Les trois en question interrogative, oui. Pourquoi est-ce qu'il y a une unité? Oui.
Parce qu'il montre que ça a l'air une évidence et une impossibilité.
Oui, en termes de... Ça, c'est sur le plan du contenu. Donc, il y a la même idée qui est développée dans les trois phrases. Et pourquoi est-ce que, du coup, vous aviez vu comme... c'était évident qu'on les mettait ensemble.
Sur cette première partie, je suppose des questions sur comment fonctionne le temps, qu'est-ce qu'il en général, non?
Oui.
Et comment on peut le définir?
Aussi sur le contenu, ça marche. Et il y a aussi un indice sur la forme. Oui.
Là, c'est des questions avec le calcul.
Oui, donc ce sont des questions. Ah.
Non, mais,
bah... Avec des pronoms, on essaie de mettre des mots. Avec des pronoms indéfinis, interrogatifs.
Ouais, voilà.
Ok. Donc, il y a la même forme. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle en français un parallélisme. On rappelle ça.
Ok.
Donc il y a une unité au niveau de la forme et du fond. Donc ça crée une unité, en effet, c'est un segment qui est cohérent. D'accord ? Donc on peut prendre ça comme critère. Je vous le rajoute là, si vous voulez, critère. Cohérence, là c'est de la cohérence grammaticale, en fait, au niveau de la forme, mais aussi au niveau du fond. Ou des idées. Et là, il y a les deux. D'accord ? Alors, par contre, je n'ai pas le nom, je ne sais plus comment vous appelez. Vous êtes appelé comment? Votre nom de famille?
Malais.
Malais, ok. Et votre camarade? Oui.
Moi, Edouard.
Ok. C'est comme j'essaie de vous noter au fur et à mesure, mais je ne vous connais encore pas tous. Donc, premier séquence, celui-là. Ça marche. Ensuite, bah là, on en a encore une. Qu'est-ce qu'on fait avec celle-là?
Bah, non, pour moi, je la mettrais pas avec.
Pourquoi?
Bah, parce que là, on aborde on aborde autre chose, parce que là, du coup, on voit à la fois la distance qu'on tient avec.
Oui, cette phrase, il faudra la reformuler.
Oui,
on tient avec, c'est poétique, mais c'est pas très correct. La distance par rapport à la. Vis-à-vis de. Bah, on entretient avec elle.
Oui, parce que c'est un peu la réalité qu'on emploie le plus, mais qu'on connaît le moins. Enfin,
oui, donc plus familière et plus connue.
Oui, voilà.
Et le paradoxe, c'est plus c'est familier, plus c'est compliqué à saisir. D'accord ? C'est un peu l'idée de vos parents sont les gens que vous connaissez le moins. Et pourtant, vous vivez tous les jours avec eux. Donc c'est un paradoxe d'éloignement et de proximité, d'intimité et de mystère. Donc ça court sur une seule phrase ou sur les deux ?
Sur les deux.
Tout le monde est d'accord avec ça ? Ok. Donc là, on a une idée qui est au terme de, sur le plan des idées, plus que sur le plan de la grammaire. Là, il y a une phrase interrogative, une phrase affirmative. Parfois, il peut aussi y avoir des cohérences comme ça au niveau des termes. Vous avez un terme qui va être repris sur une ou deux phrases, par exemple. D'accord ? Donc ça peut être un indice aussi. Donc là, on aurait deux gros blocs dans la première partie. Dans la deuxième partie, qu'est-ce que vous en pensez ? À quel moment on ferait s'arrêter une première sous-partie ? Oui ?
La première sous-partie, j'ai affirmé, après je ne sais plus.
Je ne sais plus, ouais.
Attends,
oui. Oui. Pourquoi ?
Bah, parce que déjà, là, on va se demander comment on définit le temps, si on n'arrive pas à l'expliquer aux gens.
Oui, donc, mais ça, c'est déjà ce qu'on faisait avant, non ?
Oui, mais ça se rapporte un peu quand même, en fait.
Oui, il y a un autre indice qui fait qu'il y a une cohérence dans ce que vous avez choisi.
Il
oui.
y a la question aussi.
Oui, c'est la question et la réponse. Du coup, ça va ensemble. Question-réponse. Donc là, c'est une cohérence grammaticale aussi, de la construction du paragraphe. D'accord ? Et en plus, on est dans la même thématique. Forcément, si c'est la question et la réponse n'est pas totalement à côté de la plaque. Qu'est-ce que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Si on me le demande, je ne le sais plus. Et en même temps, il ne répond pas directement. Justement parce qu'il n'arrive pas à répondre.
Bah, parce qu'il sait pas
le donc du coup, il est obligé de commenter le fait qu'il n'arrive pas à répondre. Ok ? C'est comme quand vous, mesdames, ou quand vous demandez à messieurs « Qu'est-ce que tu éprouves pour moi ?» et que le monsieur... c'est tout, c'est la question. Ensuite, c'était la blague, la pause pédagogique de la blague. J'ai plus votre nom, par contre.
Deschamps.
Ok. Lauriane, c'est ça ? Et alors, là, est-ce qu'on garde tout ensemble ou est-ce qu'on fait une césure ? Comment ça se passe ?
On
va penser quoi ?
On garde tout ensemble.
On garde tout ? C'est cohérent au niveau grammatical ? Mm-hmm. Oui ? C'est une seule phrase. Hein. Elle est longue, hein. Il y a plusieurs propositions. Hein. Et, dès qu'il y a des points virgules, là, c'est une proposition différente, mais c'est un même élan. Donc on garde. Ensuite, on arrive à la 3. Oui ?
On peut arrêter à éternité.
Éternité là, c'est assez...
C'est long,
satisfaisant sur le plan visuel parce que du coup c'est moite-moite.
Ouais.
Et alors est-ce que ça tient ? Dites-moi quelle est la justification.
Bah parce qu'en fait dans cette sous-partie, il parle, il définit un peu le passé, le présent et le futur.
Oui.
Et il met des termes dessus. Par exemple, le futur il met l'éternité et tout. Alors c'est tout.
Passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore. Déjà on a passé, il n'est plus, l'avenir pas encore. Ouais. Le présent, toujours présent, le présent passé, ici, il sera l'éternité. Donc en fait, il a fait les trois. Passé, avenir, présent. Il a annoncé avant. Il en a laissé deux sur les trois. Donc là, c'est cohérent en effet. Et puis un autre truc qui peut vous aider aussi des fois quand vous avez un doute, c'est les connecteurs logiques.
Ouais,
okay là, il y a un gros donc.
Il y avait pourtant.
Ça nous aide un petit peu. Là, il y a un pourtant. Ok. Là, il y en avait un autre donc. Et là, il y en avait un autre donc. Il est bien donc. Il en avait, en effet. Donc ça, c'est important en philo de repérer bien les connecteurs logiques parce que ça montre aussi le mouvement de la pensée. Est-ce qu'on tire une conséquence ? Est-ce qu'on cherche une cause ? Est-ce qu'on est dans une objection ? Est-ce qu'on est en train de nuancer ? Est-ce qu'on donne un exemple ? Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir commenter dans votre commentaire, en fait. Analyser dans votre commentaire. D'accord ? Ce que vous avez vu un peu en français avec le chapitre sur la littérature d'idées, en fait. Hein. Donc là, on a bien deux sous-parties. Alors là, on pourrait regarder aussi s'il faut encore subdiviser ou si on garde ça ensemble, mais a priori, il y a peu de chances qu'on divise. Vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est cohérent les deux dernières phrases ? Donc c'est présent pour être du temps de rejoindre le passé, comment pouvons-nous déclarer qu'il est aussi lui qui ne peut être qu'en cessant d'être, si bien que ce qui nous autorise à affirmer que le temps est, c'est qu'il tend à n'être plus. Oui, parce que ça parle de quoi ? Du passé, du présent ou du futur ?
Présent.
Du présent. Les deux parlent du présent. Et là, on a le si bien que, qui exprime quoi comme type de relation logique ? C'est une cause, une conséquence, un but. Oui ?
Une conclusion.
Oui, une conclusion, une conséquence. D'accord ? Ce que vous vouliez dire sans doute. Donc, du coup, conséquence de ce qui a été dit auparavant. Donc, c'est cohérent. Ok ? Et votre nom à vous, je sais. C'est quoi votre nom? Maxime. Maxime, 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 je vais vous retrouver. Ou Maxence? Maxime, Loridan. Ok, ça marche. En plus, il y a les masques, c'est pas possible de vous identifier avec les masques. Alors, on a des parties, on a des sous-parties, c'est pas mal. D'accord? Ensuite, avec des pistes pour les trouver, les sous-parties. Vous avez bien noté tout ça, c'est bon? Ensuite, eh ben, on va attaquer le gras, en fait. Hein. Se demander pour chaque sous-partie, le petit point. Et là, je vous dis trois choses à se demander sur les sous-parties, sur chaque sous-partie. On va se demander quelle est la notion qui est définie. Et comment elle est définie. Parce qu'en fait, en philosophie, la plupart du temps, la question centrale, c'est qu'est-ce que sont les choses? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la morale? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que tout ça, tout ça? Et donc, on va donner des définitions. Là, c'est qu'est-ce que le temps? Et il cherche la définition. En disant qu'il n'y arrive pas, mais quand même. Et alors, il y a les grosses notions, donc là, le temps, par exemple, le gros thème. Puis, il y a les sous-thèmes. Après, il va dire qu'est-ce que le présent? Qu'est-ce que le passé? Qu'est-ce que le futur? Qu'est-ce que le fait de ne pas pouvoir dire le temps? Donc, à chaque nouvelle sous-partie, vous allez demander, est-ce qu'on parle toujours de la même chose? Est-ce qu'on est, on a rajouté une petite notion qui est en dessous des autres, parce que c'est une sous-notion? Ou est-ce qu'on a, on est passé à une notion qui est à côté? Ou est-ce qu'on est passé à la notion contraire? C'est bah, des jeux qui vont se faire souvent dans les textes de philo. Okay. Ensuite, deuxième question que vous allez vous poser, vous allez vous demander, qu'est-ce que je comprends pas? Oh, on a vu une contrebasse qui revient. Alors là aussi, idéalement, vous ne mettez pas « je ne comprends rien du tout ». Mais il y aura toujours des passages que vous ne comprendrez pas. C'est logique. Puisqu'il y a des passages que même les profs de philo aguerris qui font de la recherche sur Augustin ou sur Heidegger ou sur n'importe quel philosophe, qui font ça depuis 20 ans, ne comprennent toujours pas. D'accord? Pourquoi? Parce que ils ont des pistes, bien sûr. Mais on n'est plus dans la tête de l'auteur. Breaking news, Augustin est mort. Donc on ne peut plus aller lui demander ce qu'il a voulu dire en tel ou tel truc. Donc parfois, emportés dans le flot de la pensée, les philosophes, ils écrivent les choses telles qu'ils les conçoivent, mais ils ont créé, eux, dans leur tête, des neurones que nous, nous n'avons pas encore créés forcément et qu'on ne créera jamais de la même manière qu'eux, de toute façon. Alors on va arrêter la grosse caisse, ok? Oui, c'est à vous, je parle. Et donc du coup, qu'est-ce que je ne comprends pas? Ça fait partie des questions que vous devez vous poser pour être totalement aussi honnête avec vous-même. Et pas essayer de dissimuler le problème. D'accord? Oui.
Mais en fait, c'est
appliqué
quand on
lit le
texte et
sur
le brouillon.
Oui, sur le brouillon, tout ça. Après, je vais vous dire comment structurer la copie. Ok? Et donc, qu'est-ce que je ne comprends pas? Ça va vous obliger, du coup, à vous dire, première hypothèse, je pense qu'en fait, je peux comprendre ça comme ça. Si déjà, vous avez une hypothèse, c'est pas mal. Des fois, vous allez être vraiment sec en vous disant, je sais pas du tout, j'ai rien compris. Il faut vous obliger, vous forcer à avoir une hypothèse au moins d'explication, qui va être la vôtre. Ça peut être pas la meilleure du monde, mais tant pis. Au moins, vous tentez quelque chose. D'accord? On ne vous en voudra jamais d'essayer d'expliquer. D'accord? Par contre, on vous en voudra, on vous donnera pas les points, quoi. Si vous n'expliquez pas, vous n'essayez pas d'expliquer, même si c'est maladroit, et si vous faites comme si c'était hyper évident alors que ça l'est pas. Si même les spécialistes trouvent que c'est compliqué et que vous faites du genre « Non, mais moi ça va, il n'y a aucun souci, ça ne va pas passer. » D'accord? Donc, proposer une hypothèse de lecture. Alors, j'ai peut-être en bas du tableau, c'est pas forcément facile. Et puis, le troisième truc que je vais mettre en haut, je vais passer des trucs. La troisième étape dans votre questionnement de chaque sous-partie, ça va être ce qu'on disait tout à l'heure avec le connecteur logique. Quelle est la stratégie, on va dire argumentative, les philosophes pur jus n'aiment pas trop ce terme, mais il y a néanmoins ça.
C'est encore la quatrième partie.
Oui, c'était dans le 4. D'accord. Troisième tiré du 4. Quelle est la stratégie argumentative de ce passage, de cette sous-partie? Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait. Et donc, un indice, regardez les connecteurs. Donc c'est ce qu'on a fait là, en voyant les donc, en voyant si bien que, on dit là, il tire une conséquence. Là, pourtant, il va donner une objection. Ou exprimer une opposition. Donc ça, je pense que vous êtes à peu près au clair sur les connecteurs logiques et leur sens. C'est un peu... on les utilise tous les jours aussi quand vous parlez. Mais pourtant, toutefois, nos obstants, néanmoins... plutôt dans l'opposition, si bien que, par conséquent, en effet, dans les conséquences, afin de... c'est le but. Si vous avez des petits doutes, vous pouvez toujours regarder si vous avez encore des cours de grammaire, normalement, ils sont listés. Si à un moment, vous en avez besoin, je pourrais faire une photocopie, mais intuitivement, on voit à peu près ce que ça veut dire, quand même. Ok ? Et alors là, vous avez du coup déjà 3 points de commentaire sur chaque sous-partie. Ça vous donne déjà des trucs à dire à chaque fois, ok? Et alors, le but, ça va être pour chaque fin de grande partie, de pouvoir dire, ben voilà, à cette étape-là du texte, notre thème a été défini comme ça. Le temps, il a été défini comme ça. Parce qu'on a vu tout ça, ça, ça. Ok? Et peut-être, bilan d'étape, bon, on n'a toujours pas trop compris ce truc-là, mais peut-être qu'il va nous dire après. Ok? Donc là, maintenant, je vais vous dire comment structurer votre copie à partir de tout ce travail que vous faites au brouillon. Donc, je l'efface. Et c'est toujours dans la méthodologie du commentaire, hein. Donc c'est l'étape 5 en fait, écrire sa copie. D'accord ? Combien de temps il nous reste ? Il nous reste 14 minutes. Ah oui, c'était la récré tout à l'heure en fait, c'est pour ça que tu fais une pause. Je n'ai pas tilté. Donc c'est l'étape 5. Rédiger sa copie. Ce que je vous conseille en termes de rédaction de copie, c'est quand c'est de la philo, donc quand on est avec des idées compliquées, avec des notions compliquées, de faire le plus simple possible. D'accord ? Il faut que vous soyez clair dans votre tête sur ce que vous voulez dire. Il ne faut pas chercher à impressionner le correcteur, ça ne marchera pas. D'accord ? Parce que le correcteur, c'est quelqu'un qui dit aussi... Anna Arendt et Heidegger, donc je pense que vous allez avoir du mal à l'impressionner, ça va être un peu compliqué quand même. Donc, il faut rester humble, et nous-mêmes en tant que prof aussi, le but c'est de rester humble, et de juste parler clairement. Et vous voyez qu'en fait, en parlant clairement, c'est là où on va réussir à aller le plus loin aussi dans les choses complexes. Alors, pour l'intro. On commence très classiquement par présenter l'auteur et le texte. Ici, tout va bien. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait un petit peu, hein, quand on a parlé d'Augustin, hop, on a commencé par le diaporama. Donc, présenter l'auteur, le philosophe, en fait. Mais rassurez-vous, mesdames, il y a aussi des... Enfin, messieurs aussi, d'ailleurs. Il y a des philosophes femmes. Le philosophe et son œuvre. Alors, bien sûr, si vous avez de la culture G, c'est pratique, parce que vous allez pouvoir donner plusieurs infos. Si vous êtes dépourvu sur ce philosophe-là en particulier ou cette œuvre-là en particulier, essayez de voir en paratexte, vous savez, s'il y a un chapeau ou il y a quelques indications. Et dans ce cas-là, vous vous débrouillez pour avoir au moins le siècle, la nationalité et le courant philosophique. Ça devient une boîte de nuit, surtout. Une boîte de jour. Siècle, nationalité, courant philosophique, comme ça, si on limite ça, on peut avoir Augustin, penseur de l'Antiquité, sous l'Empire romain, et qui est un penseur chrétien. On a les trois. D'accord ? Et l'œuvre, l'œuvre, là, si vous n'avez rien du tout, vous ne pouvez rien dire, hein, mais si là vous avez quelques notions, vous pouvez dire l'œuvre autobiographique qui propose aussi des développements philosophiques, notamment sur le temps. Ok ? Donc là, je vous le dis juste à titre d'exemple, mais je ne vous ai pas forcément fait copier l'intro parce que je vous donne juste la méthode là. Présenter le philosophe son œuvre. Ensuite, donner le thème et la thèse du texte. Ça, c'est ce qu'on a déjà donné en réponse tout à l'heure. Donc, il traite dans ce passage en particulier du temps pour en proposer l'idée selon laquelle le temps est à la fois ce qui nous est le plus familier et ce qui est le plus difficile à expliquer. D'accord ? Ensuite, vous allez donner la problématique. Alors, ça, c'est une nouveauté par rapport à votre brouillon. là où je vais vous dire en fait à quelle question répond le texte. Oui.
En fait, je dois avoir mon travail de demain.
Oui.
J'arrive pas à savoir comment je peux présenter la thèse.
C'est-à-dire ?
Bah, comment l'expliquer à l'écrit dans l'intro.
Là, je viens de le faire. Saint-Augustin présente le thème, enfin, parle du temps. Et il en dit que le temps est à la fois familier et difficile à expliquer. Vous voyez, sous forme de... C'est pour ça que je vous demande de faire une phrase débrouillon. Comme ça, votre phrase, vous la transposez exactement, en fait. OK ? Et alors, donner la problématique, c'est finalement donner la question à laquelle la thèse a répondu. D'accord ? Quelle question il s'est posée, Augustin, pour avoir besoin d'écrire ce texte ? Donc là, ça, c'est, bien sûr, c'est qu'est-ce que le temps ? Mais on va pouvoir en mettre une couche en disant, en effet, la question du temps est problématique. Quand on se demande ce qu'est le temps, l'expérience nous montre que les mots nous manquent ou les pensées nous échappent. Vous pouvez prendre aussi l'expérience à votre propre compte. Il y a des cas qui seront plus faciles que ça, on aura d'autres exemples, mais là c'est vrai que c'est un peu limité. Ou alors essayer de raccrocher à une expérience de vie. Alors est-ce qu'on peut avoir l'expérience de ce qui semblait le passé mais qu'en fait c'était présent, mais en fait c'est passé ? Est-ce qu'il y a un moment où vous dites « Ah, oh, mais en fait, ça y est, c'est passé !» Alors qu'en fait, vous pensiez que c'était encore le présent. Oui, dans le rêve, il y a une temporalité particulière où quand on se réveille, on se... Enfin, c'est peut-être deux temporalités parallèles, peut-être. Je ne sais pas, c'est par rapport au réveil ou pas ?
Non, dans le rêve, on a un peu de temps, on se quelque chose et on pense que c'est vraiment passé dans la réalité, en fait, c'est
pas passé. Mais c'est pas du temps.
Niveau
de réalité. Alors qu'on a l'impression
d'avoir déjà vu quelque chose.
Ah, l'impression déjà vu.
Oui, mais moi, ça arrive
vraiment
qu'on rate quelque chose qui
est assez dur. Oui, alors ça, c'est rêve prémonitoire. Donc, le déjà vu, c'est assez pertinent, parce que c'est pratique, c'est facile à mettre en lien. Le rêve prémonitoire, c'est un peu plus sujet à caution, ce qui est vraiment prémonitoire. Donc, l'impression déjà vu, c'est quand vous vivez quelque chose au présent et que vous avez la sensation que vous l'avez déjà vécu. On a tous eu ça à un moment ou un autre de notre vie. Et donc, on a une superposition entre le passé et le présent. Et c'est dans ce genre de moment qu'on peut se demander, mais c'est quoi le temps, en fait ? C'est quoi ce qui différencie le passé et le présent, si on peut avoir une espèce d'intuition simultanée de passé et de présent ? D'accord ? Donc, pour donner la problématique, vous pouvez très bien vous référer à des expériences comme ça qu'on peut qualifier de philosophiques, des expériences de vie. On va en trouver pour tous les sujets, hein, qui sont en fait philosophiques, qui donnent à penser, à s'interroger. Okay ? Donc, expérience du déjà pour formuler la question, mais en fait, qu'est-ce que le temps ? Puisqu'on voit que dans certaines expériences, on n'arrive pas bien à distinguer le passé et le présent. Oui.
J'ai fait quoi avant déjà vu ?
Exemple. Oui. Et puis ensuite, vous voyez, hein, c'est un peu classique, hein, après la problématique, on donne. On est content, on a notre petite intro. Vous donnez que les grandes parties, bien sûr, hein, pas les sous-parties. Sinon, vous allez vous embêter.
Et du coup, madame ?
Oui.
L'annonce de plan, en fait, on parle des grands titres de nos parties.
Oui. Pour ça, si vous les formulez dès votre brouillon sous forme de phrase, après, c'est beaucoup plus facile à intégrer à votre intro. Ensuite, quand vous allez développer, vous allez faire partie par partie, donc le développement. Là, c'est aussi très classique, hein. Vous n'oubliez pas de faire une phrase d'intro. Oh, je vais faire une grande partie. Hop, une phrase d'intro. Et puis ensuite, vous allez faire par sous-partie. Là aussi, vous présentez ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, la notion définie et sa définition, du coup. Et vous commentez. Je vais écrire un peu la même chose, mais la stratégie argumentative et les problèmes qui restent, et vos interprétations, et vos solutions. D'accord ? Et vous faites ça à chaque fois pour chaque sous-partie. Donc, fois deux ou trois, ça dépend du nombre de sous-parties que vous avez. Et puis, vous n'oubliez pas, dans toujours cette grande partie, votre petite phrase de conclusion.
Chaque sous-partie.
Ok ? Donc la phrase de conclusion. conclusion, elle peut reprendre grosso modo la phrase d'intro, comme elle peut faire le bilan des problèmes que vous n'avez pas encore solutionnés. Par exemple, le problème restant. Comme ça, ça fait un peu de suspense. Allons-nous avoir la réponse à nos questions dans la suite de notre voiture. Oui.
C'est la stratégie.
Argumentative, je ne vais pas écrire en entier, je fais argue. Problème avec elle. Et donc vous faites ça pour chaque partie. Ok. Et il nous restera la conclusion. C'est la fête, Alexel.
Je
crois que c'est ça. Il y a des choses que vous n'avez pas à lire ? C'est calme là, monsieur. Donc, conclusion. Vous vous rappelez ce qu'on fait d'abord en conclusion, comme on rappelle la problématique, on fait un bilan des réponses et on fait une ouverture. Ça n'a rien d'exceptionnel. Donc on dit, ah oui, alors en fait, au début, la question qui se posait, c'était qu'est-ce que le temps, vu que la différence entre passé et présent n'est pas toujours facile à faire dans certaines expériences spéciales. Il nous a répondu que, on redonne la thèse, le temps était paradoxal, puisque à la fois il nous est très familier, en même temps, il nous restait insaisissable. Et vous voyez, là où ça marche bien, ma conclusion, là, c'est que je reprends exactement les mêmes idées, mais j'utilise des synonymes ou des formulations différentes. Donc on a le sentiment d'avoir avancé. Alors qu'en fait, j'ai pas encore ajouté beaucoup d'autres idées. Hein. Donc attention, effort de synonymes, de reformulation. Ce qui va donner une autre allure à votre conclusion. Vous rappelez vos parties, là aussi toujours en reformulant. Hein. Rappel des parties. Seulement les parties, pas les sous-parties. Là aussi, sinon ça va être un peu trop long. À quoi ça sert de faire tout ça? Je veux dire, c'est hyper redondant, c'est répétitif. Ça sert aussi pour le correcteur à être sûr que vous n'avez pas fait de hors-sujet. Ça peut arriver très vite en philo, faire du hors-sujet. On part sur un truc, et puis hop, ça nous fait passer un autre truc. Hein. Si, en tant que correcteur, je lis l'intro, je lis la conclusion, et ça me parle de deux trucs différents, c'est que vous êtes perdu en route. D'accord? Donc parfois... pas par perversion, mais juste par pédagogie, on garde intro, conclusion, après on lit le développement. D'accord ? Donc soyez cohérents entre les deux. Et donc, ouverture.
On est obligé, quoi, pour l'ouverture.
Bah, c'est mieux, quand même. Et vous êtes en terminale, maintenant.
Mais comment on fait pour trouver une ouverture ?
Alors, trouver une ouverture. Soit c'est parmi les problèmes que vous avez, qui sont restés sur le côté, bah vous pouvez vous dire en fait on n'a toujours pas trouvé la solution à ça. Donc c'est de faire formuler ça sous forme de nouvelles questions. Comme si c'était un sujet de disserte pour une disserte à venir. Ok ? Donc sujet de disserte à partir du texte, mais qui ne soit pas celui que vous avez déjà traité. Ou alors si vous avez des connaissances sur le philosophe, on finit en silence. Il reste 2 minutes. Si vous avez des connaissances sur le philosophe, ça peut être, mais dans un autre texte, il a aussi parlé de ça, peut-être qu'il a changé de position, ou avec un autre philosophe. Voilà. C'est bien l'ouverture de la formuler sous forme de question.
Et est-ce qu'on peut mettre un film ou un livre ?
C'est un peu compliqué, vous pouvez faire ça en disserte, mais en ouverture de commentaires, ça va faire bizarre. D'accord ?
Oui.
Donc là, vous avez toute la marche à suivre pour le commentaire. J'ai insisté parce que aussi, vous aurez ça à faire pendant les vacances comme DM, hein, commentaire de texte. Ok ? Donc, pour jeudi, vous lisez le texte de Bertrand que j'ai mis sur Internet. Et puis, je commencerai par vous dicter un corrigé pour le texte d'Augustin. Ok ? Oui. Il est déjà mis, normalement. C'est le texte de Bertrand. C'est pour ça qu'on s'entraîne ensemble et après, vous rédigerez tout chez vous.
Ça fait mal.
Oh,
fois.
Bonne fin de journée.
Merci, vous aussi.
Vous êtes un producteur ?
Oui, s'il vous plaît, oui, c'est gentil. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Thank you.